Bien. Bon, le mardi soir, hein, c'est surtout un moment, comme on vient d'avoir, un moment de prière. Ça fait 30 minutes qu'on partage les différents sujets, les différents besoins, les sujets de louange, et qu'on prenne le temps de prier ensemble pour ces choses. Généralement, on a également un temps de chant avant cela. Et le temps d'étude, l'étude que nous sommes en train de suivre, elle est faite, dirigée plus pour les croyants, les chrétiens, ceux qui ont déjà accepter Christ dans leur vie, dans leur cœur, qui ont déjà accepté le salut que Dieu offre. Et Dieu dit que quand il donne son salut pour nous purifier, nous laver de nos péchés, qu'il nous promet de nous donner également le Saint-Esprit en nous pour nous aider à vivre notre vie chrétienne d'une manière qui lui est agréable. Il y a des passages dans la parole de Dieu, comme en Galates chapitre 5, versets 22 et 23, que nous sommes en train d'étudier. Et voir la signification pour quelqu'un qui est sauvé, pour un chrétien, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Ou il nous parle de ce que la Bible dit du fruit de l'esprit. Et Galates 5, 22 et suivant nous dit: Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et juste avant d'avoir partagé ces choses, il nous donne le contraste de qu'est-ce que c'est la vie de la personne qui n'est pas sauvé, qui n'a pas le Saint-Esprit en lui. Et le verset 19, ils nous disent, c'est pas le fruit de l'esprit, c'est les œuvres de la chair. Et ça, ce sont les œuvres que l'homme parfois essaye d'utiliser pour atteindre le salut. Et c'est ridicule. Il dit, on n'a pas de bonnes œuvres, parce que nos œuvres sont toujours de la chair. Et notre chair, elle est remplie de péché. Elle ne peut pas plaire à Dieu. Et les œuvres de la chair, il nous donne la définition. Les versets 19, il dit, les œuvres de la chair sont évidentes. C'est-à-dire, on ne peut pas les contester. Elles sont visibles. Elles sont évidentes. Ce sont la débauche, ce sont l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Ça, ce sont les œuvres que nous pouvons procurer par nos œuvres. Et aucune de ces choses, on peut le comprendre, ne vont plaire à Dieu. Et ça, c'est comment nous étions avant qu'on accepte le salut que Dieu offre par sa grâce au moyen de la foi. Et c'est pour ça qu'il nous donne au verset 22, mais le fruit, vous qui êtes sauvés, vous qui avez le Saint-Esprit en vous, c'est l'amour, la joie, la paix, vraiment des choses contraires de ce qu'on vient de voir. Ce sont la bienveillance, la bonté, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Il dit, la loi n'est pas contre ces choses. Ce sont ceux qui sont à Jésus-Christ, ont crucifié la chair avec ses passions et avec ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Et ce sont ces vérités que nous sommes en train de voir. Et donc, je voulais que ce soit au clair que c'était pour les chrétiens. Et on a des passages comme en Éphésiens 5, 18 qui nous dit, soyez remplis de l'Esprit. On a le Saint-Esprit, et c'est pas, on a compris, d'être rempli, ce n'est pas une question de proportionnalité, c'est une question de soumission et d'obéissance. Et on a fait le parallèle avec les enfants qui sont soumis aux instructions de leurs parents. C'est quelque chose qu'on doit renouveler jour après jour après jour. À chaque fois que Dieu me dit quelque chose, je dois faire le choix. Est-ce que je l'accepte ou est-ce que je le refuse et j'en fais qu'à ma tête? Et à chaque fois que je refuse, je ne peux pas être rempli, soumis au Saint-Esprit et à faire ce que Dieu demande de moi. Et on a commencé à voir quelles sont les choses que moi je peux faire pour m'aider en tant que chrétien à pouvoir être soumis au Saint-Esprit, à être obéissant au Saint-Esprit et donc à la volonté de Dieu. On a dit la première chose, c'était de faire cet examen personnel, de demander à Dieu d'être en prière, de s'examiner et de demander à Dieu de nous examiner. Est-ce qu'il y a la moindre chose en moi qui ne te plaît pas à toi? Je ne demande pas est-ce que ça ne plaît pas aux autres. Je ne demande même pas est-ce que ça ne plaît pas à moi. Est-ce qu'il y a des choses qui sont contraires à ce que nous voyons dans ta parole, dans la Bible, que tu n'aimes pas? Et si oui, ben, il faut aller au deuxième, confesser, et on a étudié ce terme. Confesser, c'est pas, c'est d'admettre qu'on a tort. Il y a également ce que la Bible appelle la repentance. La repentance, le mot littéralement dire, veut dire de faire volte-face, de tourner le dos à cette chose et de faire marcher dans le sens contraire. On avait ce péché, le Seigneur nous montre ce péché, on fait volte-face, tourne le dos, et on ne veut plus faire ce péché. Ça, c'est la repentance. C'est mieux, c'est plus que simplement être désolé. Être désolé, c'est bien, mais ce n'est pas la repentance. Et la repentance, c'est ne pas vouloir recommencer, parce qu'on voit que ça offense Dieu. Et en tant que chrétien, on doit avoir un amour pour Dieu et non vouloir offenser Dieu. Il dit, je refuse ces choses. Seigneur, pardonne-moi. C'est ça qu'on fait. C'est, je pardonne-moi, je me repens, je ne veux plus faire. Et on a besoin de ces deux premières choses parce que le moindre péché dans notre vie va faire obstacle à ce que nous soyons vraiment remplis du Saint-Esprit, à ce que nous soyons vraiment soumis au Saint-Esprit. Et c'est d'où vient le troisième point qu'on était en train de voir la semaine dernière. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir cette soumission? Et on en a parlé déjà un peu. Et on avait vu les derniers passages qu'on avait vus ensemble. C'était en Romains chapitre 6, versets 11 à 13. Il dit, ainsi vous-même regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. C'est-à-dire, je ne vis plus pour ma chair, je vis maintenant pour Dieu. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, il pourrait dire entre guillemets, comme il le faisait auparavant, avant votre salut, et n'obéissez pas à ses convoitises. On a vu qu'à chaque fois qu'on voit ces verbes, hein, que ça ne règne donc pas, regardez-vous et n'obéissez pas avec ces verbes, c'est donc également des choix. Une décision qu'on doit prendre. Ça ne se fait pas automatiquement. Ce n'est pas juste parce que j'ai la connaissance que ça va se faire tout seul. Il dit, ne livrez pas vos membres au péché, c'est-à-dire ne laissez pas, comme il dit, le péché dominer sur vous. Je vous ai donné le pouvoir et la capacité de dire non au péché. Avant votre salut, avant d'être sauvé, vous n'aviez aucune raison de vraiment de dire non. Vous n'avez pas vraiment une vraie puissance. Vous avez la capacité de dire non de temps en temps. Mais pas régulièrement, jour après jour. Mais maintenant, avec le salut, avec le Saint-Esprit en vous, vous avez cette capacité à travers Christ. Ne livrez plus vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. On avait également vu un passage quelques chapitres plus loin, Romains 8, 31-32. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? En sachant que notre force ne vient donc pas de nous, mais qu'elle vient de Dieu. Ma capacité de dire non au péché, jour après jour, ma capacité de me soumettre au Saint-Esprit, ne vient pas de ma force de persuasion personnelle. Il faut que je... Non. Là où le je s'arrête, c'est si je rajoute Dieu après. Il faut que je laisse Dieu. Et pas, il faut que je sois assez fort pour dire non. Et pas que, il faut que j'arrête de. Non. Il faut que je me soumette à Dieu. Il faut que je mette ma foi en Dieu. Il faut que je croie en ce que Dieu dit. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui peut faire quoi que ce soit pour m'empêcher que la volonté de Dieu s'opère dans ma vie. Et on sait que la volonté de Dieu, c'est que je lui sois obéissant, que je lui sois fidèle. Et donc, quand on se donne à Dieu, chaque jour, ben on doit le faire sans condition, vous savez, et sans avoir besoin de savoir ce que Dieu a prévu pour nous aujourd'hui. Quand on parle de soumission, dire Seigneur, que ta volonté se fasse, comme Christ l'a fait dans le jardin de Gethsémané, non pas ma volonté, mais que la tienne se fasse, lui savait ce qui allait se passer après. Il l'a dit à un moment où c'était le moment le plus terrible de sa vie, où après cette prière, il allait être trahi par l'un des siens, il allait être jugé, condamné, alors qu'il était sans faute, parfait, par les personnes même pour lesquelles il aimait. Ce sont eux qui vont exiger à ce qu'il soit mis à mort. Alors que Pilate voulait le relâcher, ce sont les siens qui ont crié, crucifie, crucifie. Il savait que toutes ces choses allaient passer. Il savait qu'il allait être cloué sur la croix. Il savait qu'il allait être fouetté. Et il a dit, non pas ma volonté, mais que la tienne se fasse. Pourquoi? Parce qu'il savait que c'était le seul moyen pour vous et moi d'acquérir le salut. Mais Dieu veut que nous ayons cette même sentiment, cette même esprit qu'il y avait en Christ, de pouvoir dire, de nous soumettre à la volonté de Dieu, de dire à chaque jour, non pas ma volonté, mais que la tienne se fasse, sans même savoir ce que cette journée nous réserve. Parce que je sais que cette journée, elle est entre tes mains, et que tu m'aimes, et que tu me veux du bien, je peux te faire confiance que ma volonté se fasse. De se soumettre avec condition, ce n'est pas se soumettre. C'est comme l'enfant qu'on dit, je veux que tu m'obéisses, et l'enfant dit, je t'obéirai si. Non. Si l'enfant met des conditions à son obéissance, ce n'est plus de l'obéissance. Et Dieu dit, je veux que tu te soumettes parce que tu me fais confiance. Tu sais qui je suis. Je suis le Dieu qui t'a donné mon propre fils Jésus-Christ pour mourir sur la croix pour ton bien. Tu peux me faire confiance. Et on doit se donner à lui vraiment sans réserve. Et croyant et sachant même. Croire, c'est la première étape. De savoir. C'est cette foi que Grégory, il t'attend. C'est ton sac, Grégory. Grégory, c'est ton sac. D'accord. Mais de croire, hein, on dit de croire, c'est tout ce qu'il y a dans l'étape de la foi. C'est juste la première étape. De croire, c'est ce qui nous pousse à faire le reste. De savoir avant même de voir, ça c'est la foi. Et je crois et donc je prie, mais quand je prie, je sais déjà que Dieu n'est pas menteur, Dieu ne va pas mentir, Dieu fera comme il a promis. Ça c'est tout ce processus, c'est la foi. C'est pas juste de s'arrêter, oui, je crois que Dieu dit vrai. Bon, si tu crois, ça doit te pousser à faire les autres pas de la foi. De savoir à l'avance, avant de voir ce qu'il va faire, que Dieu va tenir parole. Et d'être rempli de l'Esprit, c'est d'être ce chrétien qui va être sensible aux directives du Saint-Esprit. Et à la volonté de Dieu, aussi bien dans les petites choses que dans les grandes. Et de ne pas l'ignorer, juste parce que tu as déjà en tête ce que toi tu aimerais et veux faire. C'est d'être à l'écoute de ce que lui désire. D'avoir cette habitude de toujours. Encore une fois, je fais la comparaison avec les enfants. On peut être dans une pièce remplie de personnes, je ne sais pas si c'était pour vous, mais je sais que c'était pour moi dans mon cas, et que s'il y a une personne dans la foule qui faisait ça, juste claquer des doigts, je m'arrêtais et je regardais est-ce que c'était pour moi. Je ne peux pas dire que je savais que c'était mes parents qui claquaient des doigts, mais je savais que ça pouvait l'être. Et je m'arrêtais de ce que je faisais et je regardais. Et parfois, on peut être dans ce monde plein de bruit autour de nous, nos propres émotions qui nous remplissent de plein de bruit, veulent nous tirer dans tous les sens, et le Saint-Esprit est là. Juste, il n'a encore rien dit, mais il a fait quelque chose dans notre cœur, dans notre esprit, pour attirer notre attention, pour que, ah, il faut que je fasse abstraction de tout le reste, de tous ces autres bruits, toutes ces autres personnes. Abstraction de mes propres émotions, et je me tourne, oui Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Et là, il peut me dire ce qu'il a. Mais d'abord, qu'est-ce qu'il fait? Et on doit être sensible. Si on entend cela, dit, ouais, oui, je sais, mais pff, on continue son chemin, ben, bientôt, ça, on l'entendra même plus. On l'entendra même plus. Après, on dit, on a des chrétiens, mais j'ai du mal à l'entendre. Mais ce n'est pas de la faute du Saint-Esprit qui ne se fait pas entendre. C'est nous. On a passé trop de temps à écouter le bruit autour de nous que d'être sensible justement à ces petites intentions du Saint-Esprit qu'il essaye de nous donner pour avoir notre attention. Et quand on se soumet, quand on se rend disponible, on enlève toutes les excuses pour ne pas obéir à ces directives qu'il nous donne. Le Saint-Esprit nous rappelle qu'on doit lire. Ah, mais j'ai commencé ma journée, mais est-ce que tu as lu? Ah, mais maintenant c'est tard, on se fait des excuses. Je veux que tu lises. La force, les vérités, la consolation, mon dialogue que j'ai avec toi, ça vient à travers ma parole. Arrête, prends le temps de le lire. On continue notre journée. Hé, Est-ce que tu as prié? Est-ce que tu m'as parlé depuis un moment? On se fait des excuses, mais je ne peux pas maintenant. Là, je suis occupé. Puis ceci ou cela. Je t'ai pas dit que tu devais prier une demi-heure. Parle-moi. Celui qui est vraiment rempli, soumis, ne cherche pas d'excuses. Le Saint-Esprit nous rappelle, prends le temps de lire, prends le temps de prier. Parfois, ce n'est même pas de prier pour nous. Il nous met quelqu'un à l'esprit. Pourquoi est-ce qu'il nous met cette personne à l'esprit? Bah, c'est parce que certainement, il veut que je prie pour cette personne. Je peux prendre, littéralement, je peux prendre 20 secondes, une 30 secondes, 30 secondes de m'arrêter et dire, Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu as mis cette personne dans mon esprit, mais je prie pour tel ou un tel. Je ne sais pas c'est par qui elle ou elle passe, mais fortifie-le, fortifie-la, encourage-la, protège-la, pourvois ses besoins. 30 secondes, on prie pour cette personne. Et vous savez, ça ne fait pas seulement du bien pour cette personne, même sans qu'elle le sache, mais ça nous fait du bien à nous. Et ça nous fait du bien à nous parce que ça commence avec le fait qu'on a accepté de se soumettre à cette petite voix qui nous a donné une petite direction. Et on a arrêté de faire de notre vie le plus important. Et on s'est soumis à sa volonté. Oui, Seigneur, je veux bien prier pour cette personne. Je veux bien prier pour mon besoin. Et on ne fait pas d'excuses. On fait l'effort nécessaire pour le faire. On doit apprendre à se soumettre à la volonté de Dieu. Je dirais de la même manière, hein, je n'arrête pas de le dire tout à l'heure, qu'un enfant de 5 ans apprend à se soumettre à la volonté de ses parents. C'est peut-être d'ailleurs l'un des problèmes. On ne voit pas la volonté du Saint-Esprit comme une autorité qu'on doit obéir. L'enfant de 5 ans, généralement, elle n'a pas de problème de voir les parents comme étant une autorité. Ça ne veut pas dire que l'enfant de 5 ans va toujours vouloir obéir, mais elle reconnaît que les parents sont l'autorité. Vu les discussions qu'on a eues avant, oui, à 18 ans, ils ont du mal à voir cette autorité. Mais bon, mais à 5 ans, ils n'ont pas de problème à le voir. Qu'est-ce qui a changé entre 5 et 18 ans? Ce n'est pas les parents, ce n'est pas le fait que parents ou enfants et l'autorité n'est plus, est là ou plus là. Non. Mais l'enfant de 5 ans reconnaît cette autorité. Et nous, parfois, on reconnaît la présence du Saint-Esprit, mais on ne reconnaît pas l'autorité du Saint-Esprit. Et on se dit, si ce qu'il me dit et demande de faire, je veux bien, ben, je veux bien le faire. S'il me demande de faire quelque chose qui m'est désagréable, j'ai le droit de choisir de ne pas le faire. Depuis quand? Depuis quand est-ce que l'enfant de 5 ans a le droit de dire à ses parents qu'il n'a pas envie parce que c'est désagréable? Les parents disent, il est l'heure que tu te couches, tu dois aller au lit. Depuis quand est-ce que c'est l'enfant de 5 ans qui doit décider à quelle heure il doit aller se coucher? Depuis quand est-ce que c'est moi qui puis dire au Saint-Esprit si j'ai envie ou pas envie d'obéir? Mais souvent, on ne va pas le dire avec ses paroles. Saint-Esprit, ce n'est pas à toi de me dire ce que je dois faire. Mais on le fait par nos actions. Parce que c'est quelque chose qui nous est difficile de faire. Quelque chose qu'on a du mal, qu'on n'a pas envie. Et parce qu'on n'a pas envie, on croit qu'on a le droit de choisir de ne pas le faire. Et c'est faux. Ce n'est pas vrai. Comme d'autres passages qui nous le montrent, on se trompe nous-mêmes par de faux raisonnements. On comprend qu'un enfant a déjà une volonté personnelle, n'est-ce pas? Donnez-lui quelque chose, des choux de Bruxelles à manger. Vous verrez si elle n'a pas un choix personnel par rapport à cela. Mais on ne laisse pas l'enfant avoir le choix de désobéir. Romains chapitre 6, verset 11, nous dit, Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché, comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. On l'a lu tout à l'heure, mais on continue. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais donnez-vous vous-même à Dieu. C'est un choix, c'est un acte délibéré, une décision de s'offrir, de se donner, comme étant vivant mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Et on est sous la grâce, pourquoi? Parce qu'on a reçu le salut par grâce au moyen de la foi. De donner, il dit à chaque fois, une fois donner et ensuite offrir. On ne peut pas le faire si ce n'est pas un choix personnel. un choix qu'on renouvelle chaque jour et avec chaque décision, avec chaque volonté de la part de Dieu. Quand on donne, qu'est-ce qui se passe? Si je donnais quoi que ce soit à n'importe quel d'entre vous, je dis, tiens, c'est à toi, je te le donne, ben, automatiquement, ça ne m'appartient plus, n'est-ce pas? Et je dis, ben, je peux prendre n'importe quel exemple. Je donne mes clés de voiture, je dis, Sangalo, je crois que tu as besoin d'une voiture, je te donne mes clés. C'est une illustration seulement, hein. Mais il serait irraisonnable pour moi de revenir dans 2 semaines plus tard. Écoute, tu me redonnes ma voiture? Je dis, ben non, tu me l'as donnée, tu as signé les papiers, c'est à mon nom maintenant, tu m'as donné la voiture. Et c'est normal. Quand on donne quelque chose, ça ne nous appartient plus. Il nous dit, donnez-vous vous-même à Dieu. Il dit, Seigneur, je ne m'appartiens pas, je t'appartiens à toi. Si je ne m'appartiens plus, c'est normal que Dieu dise ce que lui désire que je fasse. Je lui appartiens. Et ce n'est pas prêté. Je dis, Seigneur, je me prête et ensuite je reviens pour prendre possession de ce qui est à moi. Je ne me prête pas à Dieu. Je me donne. Et quand on offre, c'est la même chose, il dit offrez à Dieu vos membres. Quand on offre quelque chose, c'est exactement la même compréhension. On ne va pas le reprendre. Et quand les offres, et ce mot offrez, pour moi, je le mets avec ce mot offrande. Et les offrandes qu'ils faisaient à l'époque, surtout où ils apprenaient à offrir des sacrifices au temple. Ben, qu'est-ce qui se passe quand on offre le sacrifice? On ne peut pas le reprendre, ce sacrifice. Il est brûlé. Ils offraient le sacrifice, il était brûlé en entier. Ils ne vont pas dire, ben, j'ai changé d'avis, je veux juste un morceau pour moi. On offre ses données. C'est à lui, ça lui appartient. Et à 2 reprises, dans un seul verset, il nous dit, donnez-vous vous-même, offrez à Dieu vos membres, tout votre être, même votre corps. Que tout lui appartienne, ne lui donnez aucune restriction et aucune condition. Faites-lui confiance avec votre vie, faites-lui confiance avec votre corps, faites-lui confiance avec votre futur. On avait dit que cette vérité en Éphésiens chapitre 5, 18 faisait le parallèle avec l'alcoolisme. Il dit, ne soyez pas enivrés de vin. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Et la personne qui s'offre entièrement à l'alcool, qui se donne entièrement à l'alcool, ben, il sait que l'alcool va dominer sur ses pensées, que l'alcool va dominer sur ses actions, et que littéralement, l'alcool va dominer sur sa vie. Et quand on accepte de se donner à Dieu, on le laisse maître de nos pensées, on le laisse maître de nos actions, on le laisse maître de notre vie. Quand nous sommes enfin arrivés à ce qui aurait dû être normal dès le début, hein, de laisser Dieu être notre maître, de nous soumettre volontairement et par amour à son autorité, nous devons encore faire une petite dernière chose. Ben, ce n'est pas une petite, mais une dernière chose avant de pouvoir voir le résultat d'être rempli du Saint-Esprit. Et ça, c'est celui d'avoir la foi que le Saint-Esprit fera effectivement son travail et de nous en être reconnaissants. On n'aura pas le temps de voir ceci ce soir, mais on peut au moins voir un verset ou deux. Nous, Romains chapitre 14, versets 22 et 23, il nous dit, cette foi que tu as, garde-le pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit de conviction est péché. Donc il met en parallèle avec la foi que tu as, parce que, encore une fois, on parle à des chrétiens, on a déjà fait preuve de foi pour accepter le salut. C'est le salut par grâce au moyen de la foi, et non par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Il dit, cette foi que tu as, donc, garde-le devant toi. Et ensuite, il dit, mais celui qui a des doutes, là, il parle par rapport au sujet de manger, de condamner, etc., mais il parle de fait. Il n'agit pas par conviction, et tout ce qui n'est pas le produit de conviction est péché. Parce qu'il va faire le parallèle avec ça, avec on a tellement de commandements et d'ordres que Dieu nous donne. Comme rien que dans ces 4 versets, qui nous est donné en 1 Thessaloniciens 5, il nous dit cette petite phrase qu'on ressort facilement. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ, et n'éteignez pas l'esprit. Chacune de ces choses, ce sont des verbes, ce sont donc des actions qu'on doit produire, mais ce sont également des ordres, des commandements. Ce ne sont pas des suggestions, ce ne sont pas des... Il serait bien si vous trouvez bon dans votre cœur et trouvez le temps de le faire, ce serait peut-être une bonne chose pour vous de... Non. Soyez toujours joyeux. Mais comment est-ce qu'on peut toujours être joyeux? Il faut revenir à ce qu'on vient de voir. Je suis toujours joyeux parce que j'ai la foi, la confiance que Dieu est bon et que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Priez sans cesse. Pourquoi? Parce que à quoi vaut prier si je n'ai pas la foi? À quoi me sert la prière si je doute de ce que Dieu va faire et de qui il est, de ce qu'il va faire pour moi? Rendez grâce en toutes choses. Que vaut... Comment m'est-il possible de rendre grâce en toutes choses si je n'ai pas la foi que Dieu est là, que Dieu a à mes côtés, que Dieu va m'aider, que Dieu, encore une fois, va faire que c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ, déjà de ce qui vous arrive et de ce que vous devez faire. On ne va pas parler de ne pas éteindre l'esprit parce que ça fera partie de l'étude dans les semaines suivantes, Dieu voulant. Mais aussi difficile que c'est que d'accepter de se soumettre à Dieu en toutes choses quotidiennement, je crois que c'est peut-être dans le domaine de la foi que beaucoup de chrétiens perdent la bataille quotidiennement pour être vraiment remplis, contrôlés par le Saint-Esprit. Ils acceptent, ils ont pris le temps de s'examiner, comme on a vu, ils ont accepté de confesser tout péché que le Saint-Esprit leur a révélé, ils ont même accepté de se soumettre à son autorité, mais après avoir prié pour que le Saint-Esprit les aide et les guide dans leur journée, ils laissent le doute et l'incrédulité entrer dans leur esprit à peine avoir fini de prier. Pour moi, la foi est l'endroit qui nous empêche le plus de chrétiens à vraiment être remplis du Saint-Esprit. Et Dieu voulant, on verra par rapport à ce que ça veut dire, donc justement, de placer cette foi pour aider le Saint-Esprit à vraiment nous remplir, à ce que nous soyons réellement contrôlés, soumis au Saint-Esprit quotidiennement. On a 2 ou 3 minutes, et si il y en a qui ont des questions ou des commentaires qu'ils aimeraient rajouter à ce que nous avons vu ce soir, on peut prendre ces quelques minutes ensemble.